Situé sur une presqu'île qui surveille l'embouchure de la Charente, Fouras occupe une place stratégique qui en a fait une forteresse quand fut créé l'arsenal de Rochefort. Un rôle stratégique que le site joua probablement dès l'Antiquité. Il sera aussi le témoin d'un fameux chapitre de l'histoire, l'exil de l'empereur déchu, Napoléon Ier.
Le promontoire de Fouras faisant face à la mer, il a constitué de tout temps un lieu propice à l'établissement d'un ouvrage militaire. Il occupe, face à l'embouchure de la Charente, une position très stratégique.
Savez-vous qu'une vieille tradition locale parle d'un château de César ?
Oh, certaines hypothèses parlent effectivement d'un temple ou d'un palais romain. Fouras a probablement abrité un castellum, l'ancêtre du château fort.
Il faut dire qu'au Moyen-Âge, il a fallu se défendre des invasions vikings. Au IXe siècle, ces Normands remontaient la Charente et pillaient tous les villages alentours.
Toujours est-il que l'on a les traces incontestables de la présence d'un château en 1074 dans l'acte de donation d'un seigneur local à l'église.
Et la région dut ensuite subir la guerre de Cent Ans, au cours de laquelle Fouras sera tour à tour française et anglaise. C'est d'ailleurs une fois la paix revenue que l'on a construit la tour du fort. Son aspect actuel date donc du XVe siècle.
La paix civile revenue, la France panse ses plaies et Louis XIV finit par imposer l'absolutisme. En 1666, le roi Soleil commande à Colbert de lui construire le plus bel arsenal de France. 5 ans plus tard, l'arsenal de Rochefort surgit des marais. Et 7 ans plus tard, ce sont déjà 26 navires de guerre qui ont été lancés.
Un important programme de renforcement des fortifications alentours va s'amorcer. Son plus prestigieux architecte sera Vauban.
On lui doit les enceintes de La Rochelle, les fortifications d'Oléron, les forts de l'île Madame et de l'île d'Aix. Et certainement celui de Fouras, puisqu'on l'appelle Fort Vauban.
Eh bien non, on lui attribue effectivement le fort de Fouras, mais c'est une erreur historique. C'est en fait à François Ferry que revient la paternité des transformations du fort. Les travaux, qui débutèrent en 1689, coûtèrent beaucoup d'argent, mais aussi de nombreuses vies humaines. On disait alors, la mer gagne à la côte, c'est-à-dire que l'eau gagne peu à peu sur les terres, obligeant sans cesse à consolider les fondations.
En 1809, les Anglais détruisent la flotte française dans la rade. C'est la fameuse affaire des brûlots. Est-ce que la forteresse a joué un rôle dans cette affaire ?
Non, aucun. Elle était malheureusement hors de portée. Mais Fouras va connaître une autre date historique. En 1815, Napoléon abdique et s'apprête à quitter la France pour s'exiler en Amérique. Il reste un temps à Rochefort avant d'apprendre que les Anglais ont eu vent de son projet. Leur navire bloque les Pertuis, seule issue pour gagner le large. Napoléon décide de s'embarquer, lui et sa suite, dans 2 frégates ancrées au pied du fort de Fouras.
Nous sommes le 8 juillet 1815 et l'empereur arrive sur la place de Fouras en fin d'après-midi. La population l'acclame. Il se rend en bas de la falaise de la Coue où l'attend une petite flottille. Les canaux du port de Rochefort et ceux des frégates.
La tradition populaire raconte qu'en l'absence de jetée d'embarquement, c'est un habitant de Fouras qui porta l'empereur sur son dos.
C'est vrai. Les canaux ne pouvaient pas accoster en raison de la marée descendante et l'embarquement de tout ce petit monde se fit à dos d'homme. C'est ainsi que Napoléon a quitté son empire sur le dos d'un marin pêcheur en larmes du nom de Beau.
On connaît la suite. Napoléon se fit conduire à l'île d'Aix et quelques jours après, il se rendait de lui-même aux Anglais à bord du navire Bellerophon.
Sur la plage sud, l'emplacement de l'embarquement est encore marqué d'une stèle en granit avec cette inscription. Ici, le 8 juillet 1815, Napoléon Ier a quitté le continent pour l'exil. L'empereur a été porté jusqu'à la baleinière par le marin Beau, natif de Fouras.